Ce soir, nous recevons Jean-Marie Tarascon, professeur à l'Université de Picardie, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, pour une conférence intitulée « Énergie, enjeux et défis de son stockage électrochimique ». Vous savez que cette série de conférences, dans laquelle s'inscrit la conférence de ce soir, continue jusqu'au 29 mai. Vous savez également que le 17, 18 et 19 juin se dérouleront à Versailles les seconds entretiens du jeu de paume, dans la salle du jeu de paume, sur le thème de la séparation des pouvoirs. Vous pouvez trouver le programme dans le hall d'entrée. Vous savez également que le programme de l'UTLS est diffusé à l'accueil, où vous pourrez trouver l'ensemble des adresses, des sites internet. Également, les conférences sont filmées et archivées sur le site www.utls.fr où vous pourrez vous en délecter sans limitation de durée. Donc ce soir, Jean-Marie Tarascon, énergie, enjeux et défis de son stockage électrochimique. J'ai dit déjà le statut de monsieur Tarascon. Il est membre de l'Académie des sciences, il est au Collège de France et il dirige le laboratoire de réactivité et chimie des solides, une UMR-CNRS, à l'Université de Picardie à Amiens. Il a une carrière qui l'a amené notamment aux États-Unis, à Cornell University, puis au Bell Laboratories et à Bellcore, où il s'est intéressé à un sujet extrêmement chaud à l'époque, oxydes supraconducteurs à haute température critique, qui était aussi un sujet de grande possibilité d'application. Donc aujourd'hui à Amiens, il détient plus de 70 brevets, il a co-signé plus de 520 publications, je n'entrerai pas ici dans les détails. Il est chimiste du solide, il s'intéresse aux structures électroniques des solides, et notamment vers les applications. J'ai parlé déjà des oxydes supraconducteurs à haute température. Et ce soir, il va nous parler de son travail dans les piles et le stockage électrochimique de l'énergie.
Jean-Marie. Ok. Écoutez, merci pour cette introduction. Et bonsoir à tous. Pardon. Okay. Bonsoir à tous. Je suis tout d'abord très honoré de pouvoir intervenir ce soir dans le cadre de cette académie, de cette université, de tous les savoirs, et spécialement dans cette chemin de la chimie partout. Pourquoi ? Parce que comme vous allez voir durant mon exposé, bien la chimie se trouve au centre de toutes les activités étant reliées à l'énergie et qui sous-tendent des problèmes socio-économiques et planétaires très importants. Donc l'énergie, comme je vais tenter de le montrer ce soir, eh bien, vous allez voir, est au cœur de nos préoccupations journalières et elle est définitivement l'élément vital de nos sociétés modernes. L'électricité est le vecteur et on peut même regarder, ou certains prédisent, que le water ou le kilowattheure pourrait devenir l'unité monétaire des prochaines années. Mais réellement, qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de la chimie dans le rôle du domaine énergie? C'est un peu ce à quoi je vais tout simplement m'attarder ce soir et essayer de vous expliquer en quoi la chimie a-t-elle un rôle dans le domaine énergie. Donc pour ce faire, mon exposé comprendra trois parties. Dans un premier temps, je vous donnerai tout d'abord les éléments tangibles qui vont permettre d'appréhender la situation énergétique actuelle, son évolution et ses conséquences sur la planète. Ensuite, j'aborderai les perspectives qui seront liées aux énergies renouvelables et bien sûr plus longuement, je m'attarderai sur le stockage électrochimique de l'énergie, montrer ses avancées et voir comment eh bien, la chimie joue un rôle très important dans ce développement. Mais pour commencer, je tiendrai à vous rappeler que notre dépendance énergétique grandissante provient finalement des découvertes du 18e siècle et des avancées technologiques du 19e et du 20e. En effet, sur ce transparent, vous pouvez voir que, initialement, eh bien, l'homme ou l'être humain n'avait recours tout simplement qu'à la biomasse, ce qui ne générait bien sûr aucun déchet sur l'environnement, puisque le CO2 utilisé était absorbé par la photosynthèse. Cette situation a duré, je dirais, jusqu'au la fin du 18e siècle, avec la découverte par James Watt de la première machine à vapeur, premier moteur à vapeur, qui fut la première machine capable de transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique. Et cela a conduit, bien sûr, à la première industrialisation avec le développement de locomotives à vapeur et ainsi de suite. Cette industrialisation doubla l'intensité, je dirais, dans les années, dans la fin du 19e siècle, avec là aussi des découvertes importantes, notamment la découverte du moteur à combustion, ainsi que la découverte de l'électricité, qui ont entraîné une consommation grande, importante des énergies fossiles. Et bien sûr, les technologies de transport qui en ont suivi, ou d'autres technologies, font en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, on a une dépendance importante sur l'énergie, puisqu'on consomme une puissance installée de 13 TWh, 1 TWh est égal à 10 puissance 12 watts, ou alors une énergie de 1,4 que multiplie 10 puissance 14 kWh par an. D'où provient cette énergie? Cette énergie, comme on peut voir ici, elle provient de différentes sources, dont j'ai mis les pourcentages sur le tableau, et dont j'ai par la suite donné les chiffres. Cette énergie primaire, finalement, elle provient à 82%, comme on peut le voir ici, des énergies non renouvelables, que sont le pétrole, le charbon et le gaz. Ensuite, il y a 11% qui provient des énergies renouvelables, telles que l'hydro, la biomasse, et ainsi de suite. Et enfin, 7% qui provient de l'énergie nucléaire. Alors, bien sûr, ces chiffres peuvent changer selon que vous allez d'un pays à l'autre. Et nous savons tous qu'en France, on est très poussé vers le nucléaire. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, 34% de notre énergie primaire vient du nucléaire. Alors qu'en Chine, par exemple, 64% provient du charbon. Mais lorsqu'on regarde ces sortes d'énergie, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont bien sûr les plus utilisées, les moins chères, mais aussi les plus polluantes. Et le fait qu'elles soient les plus utilisées, bien sûr, va conduire au fait qu'elles ne sont pas inépuisables. Et si on regarde maintenant les prédictions faites par certains modèles, comme indiqué ici, qui sont basés tout simplement sur des simulations qui prennent en compte tout simplement la croissance grandissante de la consommation et la décroissance des réserves restantes, on voit tout simplement qu'il y a un gap qui se creuse et on va passer par un maximum. De ces calculs, on peut prédire, par exemple, qu'il nous reste pour 41 ans de pétrole, 62 ans de gaz, 230 ans de charbon et 64 ans d'uranium. Cela veut dire finalement que si on regarde l'échelle ici, en 200 ans, on a presque utilisé toute l'énergie fossile que notre planète a mis plusieurs milliers d'années à créer. Tout ça, c'est un des problèmes que l'on va adresser. Et là aussi, il est intéressant de regarder que toute cette courbe en cloche avait déjà été prévue par un géophysicien américain, par le nom de King Huber, qui en 1956 avait déjà tout simplement publié cet article qui est on réfère maintenant comme pic de Huber, qui prévoit finalement ce passage par un maximum. Bien sûr, ces travaux ont été ignorés jusqu'à les années 70, la crise pétrolière aux États-Unis pourra être ensuite repris et fortement référé de nos jours. Donc voilà, si vous voulez, en ce qui concerne l'utilisation de ces énergies. Maintenant, nous allons voir comment celles-ci sont consommées et comment on les utilise. Mais on s'aperçoit que différents secteurs d'utilisation sont tout d'abord l'industrie, à la hauteur de 24%, l'habitat à la hauteur de 42%, le transport 23%, le reste étant perdu aux alentours de 11% par distribution. Mais ce qui est important, c'est de voir que les 23% qui sont utilisés ici, utilisent principalement du pétrole, du gaz, et dans ce cas, il faut bien garder à l'esprit que chaque fois qu'on va faire la combustion, c'est-à-dire que vous allez utiliser un litre d'essence, et bien dans ce cas, vous allez générer 2,5 kg de CO2, soit aux environs de 1200 litres de CO2. Et par ce fait, au jour d'aujourd'hui, 30% des 26 gigatonnes de CO2 qui sont générées dans l'atmosphère proviennent tout simplement des transports. Ce qui fait que notre concentration de l'atmosphère est passée en 60 ans de 250 ppm à 370 ppm. Donc voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc par conséquent, eh bien, cela va avoir des conséquences importantes sur l'évolution de la planète, notamment au niveau du réchauffement climatique. Si l'on trace ici les variations de température durant ces quelques dernières années, on peut voir ici qu'on a une pente ascendante. Ici, on fait une extrapolation. On peut prévoir que l'on aura certainement une augmentation de 5 degrés dans le siècle qui suit. Bien sûr, on peut également extrapoler ça au niveau de la mer, puisque la mer n'est rien d'autre qu'un thermomètre. Puisque la température augmente, le liquide se dilate et le niveau va augmenter, eh bien, on peut également prévoir que dans ce cas, on aura une augmentation du niveau de la mer de 30 cm. D'où, là aussi, une fois de plus, tout ça, on est surpris, mais ce n'est pas nouveau, puisque si on regarde la littérature, on s'aperçoit que les scientifiques l'avaient déjà prévu depuis un moment. En effet, le mathématicien et physicien Joseph Fourier avait alerté le public sur l'effet de serre dès la fin du XVIIIe siècle, et plus récemment, le chimiste suédois Svante Arrhenius avait également prévu cet réchauffement climatique au point qu'il a même proposé une formule reliant dans ce cas la variation de température à la concentration en CO2. D'où, une fois de plus, on ne devrait pas être totalement surpris. Et bien sûr, tout ça a des conséquences énormes sur notre environnement. Conséquences énormes au niveau des glaciers, puisque certains des glaciers, comme indiqué ici, des glaciers en Suisse, comme le Moterach, sont en train de disparaître. Également, des importances au niveau de la mer, de l'acidification des eaux, qui se traduit par le blanchissement des coraux, et également au niveau du montée de la mer, où on voit ici l'archipel des Maldives, dont la capitale Malé, eh bien, s'est entourée d'une digue pour anticiper ces montées du niveau de la mer. Donc voilà, si vous voulez, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, bien sûr, la question qui se pose, que va-t-il advenir demain et comment cela va évoluer? Et si on regarde cela, eh bien, bien sûr, il va y avoir une augmentation de la population, comme indiqué ici, qui va passer de 6,5 billions à 9 billions, et également une augmentation du niveau de vie des différents habitants, et ainsi de suite. Ces deux facteurs, eh bien, vont, dans ce cas, le plus d'habitants et le plus d'énergie par habitant, vont, bien sûr, nécessiter une énergie supplémentaire. Et cette énergie supplémentaire, on peut la chiffrer et on peut prévoir que, eh bien, il nous faudra le double d'énergie qu'aujourd'hui en 2050. Donc voilà, si vous voulez, les prédictions au niveau de notre dépendance énergétique. Alors, bien sûr, à cela s'ajoute la mobilité, et là aussi, il va y avoir tout simplement des augmentations, puisque tout simplement, on prévoit des augmentations de 30% de voitures en plus par des tranches de 10 ans. Le bilan est que, là aussi, malgré qu'il y ait de nombreux débats sur les différents modèles qui sont publiés dans la littérature, qui aujourd'hui sont au nombre d'une douzaine, eh bien, tous s'accordent à dire que dans ce cas, eh bien, on aura une augmentation d'au moins 2 degrés dans le siècle à venir. Alors, bien sûr, la question est comment enrayer cette pollution galopante? Ce que l'on veut faire, eh bien, c'est tout simplement pouvoir satisfaire nos demandes énergétiques, pouvoir satisfaire les demandes sur notre planète, mais sans affecter le futur de notre planète. Alors, bien sûr, il y a des solutions possibles. Je peux en proposer une, mais vous n'allez certainement pas l'aimer, qui va consister tout simplement à mélanger les technologies du début du siècle et de la fin du siècle. Mais je pense que personne d'entre vous est d'accord pour revenir directement à l'époque des calèches. D'où des solutions plus sérieuses vont pouvoir émaner. Et cela, eh bien, vont provenir de ce triangle de stabilisation que j'ai pris d'après les travaux de Sokolov, dans lequel, ici, le problème est clairement posé. Ce que l'on veut, sur cette hypoténuse, c'est tout simplement si on continue à, si on peut dire, le laisser faire. Dans ce cas, on a 26 gigatonnes de CO2 et on en aura 54 gigatonnes en 1054 si on ne fait rien du tout. Par contre, ce qu'on veut, c'est tout simplement, si on veut une augmentation nulle, ça veut dire qu'en ce cas, il va falloir tout simplement fournir 15 TWh d'énergie décarbonée, c'est-à-dire sans émission de 28 gigatonnes de CO2. Et bien pour cela, comme est indiqué dans ces différents triangles, il n'y aura pas une solution unique, mais un mélange de solutions, ce qu'on appellera un mix énergétique, pour tenter directement de résoudre ce problème. Alors parmi ces solutions, bien sûr, une des plus attractives serait bien sûr l'énergie nucléaire, malgré certainement toutes les restrictions que l'on peut avoir à ce sujet. Mais dans ce cas, eh bien, si on veut tout simplement fournir, rappelez-vous, les 15 TWh qui vont nous manquer, eh bien, il faudrait construire une tranche de 1 gigawatt tous les jours pendant 50 ans. Et comme on peut le voir, cela est impossible. De plus, bien sûr, il y a les difficultés associées au traitement des déchets et également aux réserves d'uranium 235. Okay. Ok. Est-ce que ça va mieux comme ça? C'est mieux? Bon, excusez-moi. Alors, une autre possibilité, bon, je parle fort de toute façon, une autre possibilité est, là le cas, directement d'utiliser du charbon. Et là, certains s'entêtent toujours à vouloir utiliser le charbon comme, bien sûr, source de production d'électricité, mais là aussi, basé sur le fait que l'on pourra tout simplement capturer ou séquestrer le CO2. Là aussi, l'échelle de volume est totalement différente, puisqu'on en est encore à l'état expérimental, où, au jour d'aujourd'hui, on a simplement des aquifères de la capacité et aux environs d'un million de tonnes. Là aussi, pour résoudre cette difficulté, il faudrait créer, dans les 50 ans, ou construire plus de 10 000 ou 20 000 aquifères. C'est là aussi, de nouveau, une solution qui sera limitée. D'où par conséquent, eh bien, on a tout simplement recours aux énergies renouvelables, comme indiqué ici, les énergies provenant de la biomasse, de la géothermie, de l'hydraulique, de l'éolien et de le solaire. Et parmi toutes ces énergies, il y en a une qui, je peux dire, est inépuisable, qui est très abondante, et bien c'est l'énergie solaire. En effet, cette énergie solaire, eh bien, elle délivre 10 000 fois l'énergie dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en une heure, le soleil peut délivrer toute l'énergie que l'on a besoin dans l'année. Mais, dans ce cas, la difficulté, eh bien sûr, c'est de pouvoir capturer cette énergie solaire et de la transformer. Alors, pour faire cela, eh bien, il y a différentes tout simplement, tentatives qui consistent tout simplement à transformer l'énergie solaire en différents vecteurs énergétiques. Parmi ces vecteurs énergétiques, eh bien, on a l'électricité par tout simplement les cellules photovoltaïques ou la conversion photovoltaïque. On a également le vecteur hydrogène qui provient tout simplement des réactions de photocatalyse, photoélectrolyse, mettant à profit des jonctions semi-conducteurs liquides qui permettent tout simplement la dissociation de l'eau en hydrogène et en oxygène. Et finalement, il y a le vecteur, si je peux dire, biocarburant, qui résulte, dans ce cas, de la photosynthèse naturelle, voire de la photosynthèse artificielle, dans lequel, dans ce cas, eh bien, il y a des recherches de dispositifs moléculaires capables simplement de mimer les hydrogénases qui sont tout simplement dans nos plantes et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ces différentes tentatives permettant de convertir l'énergie solaire en différentes sortes de vecteurs énergétiques. Mais là aussi, la difficulté est que si on regarde les rendements, on s'aperçoit que les rendements sont relativement faibles, de 0,3% dans le cas des biocarburants, de 6% dans le cas de la photoélectrolyse et de 5 à 40% dans le cas des cellules photovoltaïques. Cellules photovoltaïques qui, à l'heure actuelle, sont en plein développement commercial selon différentes générations. En effet, si on regarde aujourd'hui ce qu'on voit sur le marché, il y a deux sortes, ou trois générations de cellules photovoltaïques. La première étant basée sur des situations cristallines, la deuxième sur des couches minces, dont les rendements sont indiqués ici, mais tout repose sur le même principe, qui est l'absorption d'un photon par un semi-conducteur pour créer une paire électron-trou à la jonction PN qui va générer l'électricité. Et on voit arriver maintenant une troisième génération, je dirais, de cellules de cellules photovoltaïques, que j'appellerais les cellules à colorant ou cellules de Grätzel, qui, finalement, dans ce cas, mimiquent, si je peux dire, la photosynthèse végétale. En effet, dans ce type de cellules, eh bien, on n'a plus une jonction PN, mais dans ce cas, on a tout simplement l'absorption de photons qui se fait par un pigment coloré, comme la chlorophylle, et va générer tout simplement la paire électron-trou qui est nécessaire pour, bien sûr, la génération de courant. Donc voilà, si vous voulez, des technologies qui sont en cours aujourd'hui. Cependant, une difficulté dans cette conversion photovoltaïque, comme vous savez certainement tous, eh bien, ça va être le coût. En effet, le coût de l'électricité photovoltaïque, si on la compare au coût de l'électricité classique du nucléaire, ainsi de suite, est relativement importante. C'est directement la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, nous avons des subventions gouvernementales pour la rendre concurrentielle à d'autres énergies. Cependant, vu les progrès de la recherche dans ce domaine, tant au niveau des matériaux, tant au niveau de la chimie, avec l'évolution vers des cellules organiques, ainsi de suite, et tous les experts dans le domaine s'accordent à dire que dans les 20 ou 30 ans à venir, eh bien, l'électricité photovoltaïque pourra concurrencer le prix de l'électricité nucléaire. Et cela, eh bien, bien sûr, dépendant des zones d'ensoleillement et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, la situation au niveau du photovoltaïque. Mais bien sûr, le photovoltaïque souffre encore d'une difficulté, c'est que, comme vous le savez tous, le soleil est intermittent. Ce qui va, dans ce cas, générer de larges fluctuations de puissance de crête, comme indiqué sur ce diagramme ici. Et cela n'est pas spécifique à l'énergie solaire. On peut également retrouver la même chose dans le cas de l'énergie éolienne, où, par exemple, on peut voir ici, si on représente tout simplement la variation de puissance par jour d'une ferme éolienne, on s'aperçoit tout simplement la variation importante de cette puissance en fonction du temps. D'où, par conséquent, là aussi une difficulté va être tout simplement qu'il va falloir supprimer ces larges fluctuations. Ça veut dire qu'il va falloir tout simplement lisser ces variations. Et pour faire cela, eh bien, il va falloir tout simplement stocker l'énergie. Et c'est là que je vais maintenant consacrer le reste de cet exposé, vous montrer comment on va stocker l'énergie et quels sont les dispositifs que l'on va utiliser et que l'on va développer. Alors, pour ce faire, eh bien, le challenge, effectivement, que l'on a aujourd'hui, je dirais qu'est un défi du XXIe siècle, eh bien, c'est de trouver de nouvelles technologies de stockage d'énergie pour, comme je vous l'ai montré, mieux gérer les ressources en énergie renouvelable de notre planète qui proviennent du soleil, du vent, et ainsi de suite, et également pour favoriser le développement du véhicule électrique et de faire en sorte qu'on ait une pollution moindre. Donc, par conséquent, le problème maintenant est comment on va pouvoir tout simplement récupérer cette énergie et la restituer sous la forme électrique. Et pour faire cela, eh bien, on va tout simplement utiliser, dans ce cas, un dispositif qui est tout simplement les dispositifs électrochimiques que sont les batteries. En effet, dans ce cas, l'électron est le même vecteur, que ce soit pour la réaction chimique que pour tout simplement l'électricité. Et on va maintenant parler d'association batterie, véhicule électrique et ainsi de suite. Alors là aussi, malgré ce que les médias peuvent écrire récemment sur toutes les évolutions au niveau du couplage batterie-véhicule électrique, je tiendrai à rappeler que ce couplage ne date pas d'aujourd'hui, mais est relativement vieux. En effet, si on regarde directement à la fin du XIXe siècle, eh bien, la première voiture électrique a été capable de dépasser les 109 km à l'heure avec une autonomie de 80 km, et dans ce cas, on utilisait les batteries au plomb. Maintenant, si on regarde encore plus l'histoire, on s'aperçoit même qu'aux États-Unis, dans les années 1900, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait encore 30% de voitures électriques, et au jour d'aujourd'hui, ou du moins dans les années 2000, il n'y avait plus de voitures électriques. D'où la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ? Et bien pour cela, il y a deux raisons. La première, bien sûr, c'est l'abondance d'énergie fossile, le bas coût et leur facilité d'utilisation. Mais une deuxième raison provient tout simplement du manque de performance de tous les dispositifs électrochimiques dont nous avons, que ce soit les supercondensateurs, les batteries ou les piles à combustible. Et pour illustrer ce point, eh bien, je vais tout simplement vous montrer cela sur un diagramme, dans lequel, au diagramme de Ragone, pour les gens du métier, dans lequel je vais tracer ici, en naps des X, l'autonomie, c'est-à-dire l'énergie spécifique en watt-heure par kilo, et ici, la puissance spécifique qui représentera l'accélération. Donc voilà où sont les moteurs thermiques. Et maintenant, si je place sur ce diagramme les différents dispositifs électrochimiques que nous avons, eh bien, nous avons tout d'abord les supercondensateurs, dont le principe repose sur une double couche électrique, comme indiqué ici, qui sont des systèmes de très haute puissance, mais de faible autonomie, si je peux dire. À l'autre extrême, eh bien, on va trouver les piles à combustible, qui peuvent être vues comme l'électrolyse inverse de l'eau, qui vont être des systèmes, dans ce cas, avec une haute autonomie, mais une puissance limitée. Et à mi-chemin, entre ces deux, eh bien, on va trouver tout simplement les accumulateurs ou les batteries, qui sont, dans ce cas, basées sur des réactions électrochimiques qui se produisent à chaque électrode en tandem. Et les batteries, se rapprochant le plus des moteurs thermiques, eh bien, vont bien sûr être le suivi de cet exposé sur lequel je vais vous montrer comment elles vont évoluer. Mais avant de faire cela, je voudrais également vous rappeler que les batteries ont une vieille histoire qui date de plus de 200 ans. Et souvent, comme c'est le cas en recherche, Eh bien, les découvertes proviennent d'un concours de circonstances, et dans le cas des accumulateurs, ou, si je peux dire, de la première marche de la génération d'électricité à partir d'énergie chimique, eh bien, on doit remonter à 200 ans de là, où Luigi Galvani avait fait une simple réaction dans laquelle il avait montré que si finalement il contactait le muscle de grenouille par deux métaux différents, eh bien, il obtenait tout simplement une contraction, ce qui va conduire à émettre l'hypothèse que le muscle produisait de l'électricité. Bien sûr, cela fut contredit par des scientifiques de l'époque, et notamment par Alexandre Volta, qui refit exactement la même expérience, qui observa les mêmes phénomènes, mais qui les expliqua différemment, par le fait que c'était la coïncidence d'avoir deux métaux différents qui baignaient dans un même liquide, le liquide musculaire, qui était tout simplement contenait des cations. Et pour démontrer cela, eh bien, il le démontra en construisant la première pile, qui est la pile Volta, dans laquelle il empila des rondelles métalliques de zinc et de cuivre, séparées une fois sur deux par des séparateurs immergés dans des solutions salines. Et ainsi fut assemblée la première pile, qui est la pile Volta. Depuis, eh bien, il y a eu une grande évolution, et je vous montre les différentes technologies qui ont suivi celle d'Alexandre Volta, avec des systèmes que vous connaissez très bien, les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium, lithium-métal, nickel-métal-hydrure. Et vous voyez que si maintenant, eh bien, on compare les performances des accumulateurs, l'énergie volumique en fonction de l'énergie massique, eh bien, on s'aperçoit que les technologies lithium ou lithium-ion sont les plus performantes. Pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont la spécificité d'utiliser comme élément métallique le lithium. En effet, le lithium est un métal, c'est le plus léger des métaux, mais c'est également le plus électropositif. En étant le plus léger, il va vous donner de larges capacités, et en étant le plus électropositif, il va tout simplement vous donner de plus grands potentiels de sortie. Et c'est sur la base de cette technologie lithium qu'est apparu les accumulateurs, ou que sont apparus les accumulateurs lithium-ion, dont le concept date des années 1980 et qui ont été commercialisés en 1990. Voilà les accumulateurs que vous utilisez tous aujourd'hui dans vos téléphones portables. Ces accumulateurs, ils sont constitués de deux matériaux d'insertion qui ne sont rien d'autre que deux éponges vis-à-vis du lithium qui vont absorber et relarguer les ions lithium. La différence de potentiel, eh bien, va tout simplement être due à la différence potentielle des réactions redox se produisant à chacune des électrodes, et la capacité va dépendre du nombre de lithium qu'il va y avoir, que l'on va pouvoir insérer ou retirer du matériau. Ce qui fait que cette capacité, eh bien, elle va tout simplement être donnée par une formule relativement simple, dans laquelle vous avez ici une constante, et vous avez au numérateur delta X, qui va être tout simplement le nombre de lacunes dans le matériau, et au dénominateur, la masse du matériau. D'où par conséquent, vous avez tous compris que si on veut augmenter la capacité du matériau, il va tout simplement falloir, dans ce cas, augmenter delta X et diminuer M. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous utilisez le lithium, qui est un élément léger, par exemple, eh bien, vous avez de meilleures capacités. D'où la question va être, eh bien, comment optimiser tel système et en quoi la chimie va nous permettre d'optimiser ces systèmes. Alors, optimiser ces systèmes, comme vous allez voir, est un problème relativement complexe, car ces accumulateurs sont des systèmes à plusieurs entrées. En effet, on a tout d'abord, comme vous pouvez le voir ici, les matériaux d'électrode, qui a plusieurs composants, et de plus, lorsque votre accumulateur va charger et décharger, eh bien, le matériau d'électrode va respirer. Et s'il respire, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, vous allez dans ce cas avoir tendance à perdre les contacts avec différentes particules, ce qui va généralement être néfaste pour l'accumulateur. Ensuite, il y a l'électrolyte, et là aussi, la nature de l'électrolyte va être relativement importante. On va pouvoir utiliser soit des liquides, soit des gels, soit des polymères, et on verra ça par la suite. Et également, la composition, le sel et le solvant va jouer un rôle primordial. Et finalement, si je peux dire, le plus important, et certainement le cauchemar de tous les électrochimistes, va être tout simplement de maîtriser les interfaces, c'est-à-dire les quatre interfaces se trouvant dans l'accumulateur. D'où par conséquent, comme vous le pouvez voir ici, eh bien, pour obtenir des batteries plus performantes, il va falloir agir au niveau de la conception du matériau, il va falloir agir au niveau des interfaces et au niveau de l'élaboration d'électrolytes. Et tout ça, eh bien, va demander une approche multidisciplinaire, faisant tout simplement appel à la chimie sous toutes ses formes, chimie de surface, chimie organique, chimie inorganique, et ainsi de suite. Et c'est à ce quoi, je vais tout simplement m'intéresser pour le reste de cet exposé où je vais montrer comment la chimie a pu permettre l'avancée des accumulateurs à ion lithium que vous utilisez aujourd'hui. Bien sûr, je ne vais pas tout simplement couvrir toutes les avancées, mais je vais essayer de me concentrer sur trois de façon à vous donner réellement un aperçu et un point fort de cette chimie. Les points que j'ai choisis, comme je vous le disais, sont au nombre de trois. Je vais tout d'abord vous donner un exemple sur la chimie d'insertion qui a permis le développement des technologies lithium manganèse carbone, soit à une version liquide ou à une version plastique. Par la suite, je traiterai comment l'apport des nanomatériaux et la chimie associée a permis de donner un second souffle à ces accumulateurs à ion lithium. Et enfin, en dernier, je vous montrerai comment la chimie que l'on fait aujourd'hui est en train de s'adapter aux besoins du développement durable pour faire des accumulateurs plus écologiques. Donc voilà les trois points que je vais vous couvrir au niveau de la chimie. Et dans chacun des cas, bien sûr, je définirai très bien quelle est la problématique de façon à voir l'impact de nos recherches. Donc je commencerai directement par le cas des composés ou du spinel lithium Mn2O4. Comme je vous le disais, au début de la technologie à ion lithium, eh bien, le matériau d'électrode était LiCO2. Cependant, un composé par le nom de lithium Mn2O4, comme vous pouvez le voir ici, présentait des cours de potentiel ou des tensions supérieures et, par conséquent, semblait être intéressant du point de vue d'utilisation, d'autant plus que son coût était relativement faible, qu'il était non nocif et qu'il avait une tension élevée. Cependant, une difficulté lorsqu'on voulait utiliser ce matériau est indiquée ici, c'est que les performances étaient médiocres et cela est indiqué par ces photos de microscopie dans lesquelles vous voyez une cartographie qui indique que lorsqu'on cycle ce matériau, vous voyez dans ce cas, des ions de l'électrode positive eh bien, passent tout simplement à l'électrode négative car il y a une instabilité du composé et une incompatibilité de l'électrolyte. Car à l'époque, eh bien, on n'avait pas des électrolytes qui soient capables d'aller à de si hauts potentiels. D'où, sur des bases de la chimie, eh bien, il a fallu dessiner de nouveaux électrolytes. Voilà ce qu'on avait avant les années directement 1997. On avait des électrolytes qui se décomposaient à des potentiels de 4,3 volts. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est que grâce à des calculs théoriques et des considérations de constante électrique, d'énergie de solvatation, de polarité des solvants, ainsi, on a pu tout simplement déterminer une autre formulation d'électrolyte basée sur l'utilisation, dans ce cas, de carbonate cyclique ou non cyclique, comme indiqué ici, associé à des sels de lithium. Et ainsi, on a pu dessiner des électrolytes dont la stabilité maintenant peut aller jusqu'à 5 volts et dont les conductivités sont relativement importantes. Cela a conduit à la commercialisation d'un produit, d'un électrolyte qui est aujourd'hui largement utilisé et qui a permis de trouver de nouveaux matériaux d'électrode, mais également d'optimiser le spinel lithium Mn2O4. Car en effet, ce composé lithium Mn2O4 eh bien, a également des difficultés d'un point de vue structural liées à des problèmes de non-stoichiométrie. Dépendant de sa composition et du taux de manganèse plus 3 dans ce composé, eh bien, il peut engendrer une transformation structurale qui est associée à un changement de volume important. Et comme je vous l'avais dit, si vous avez une électrode dont le volume change fortement, eh bien, elle va se dégrader lors du cyclage. D'où, il fallait trouver un moyen chimique de changer la proportion du manganèse plus 3 vers du manganèse plus 4. Et comme on le fait souvent en chimie du solide, eh bien, cela peut se faire en jouant sur la substitution cationique. En effet, on a simplement dans ce cas remplacé du lithium et on a également pu faire une double substitution au niveau cationique ainsi qu'au niveau anionique. Et par ce biais, nous avons pu dans ce cas obtenir des accumulateurs présentant une tenue en capacité excellente comme indiqué ici. Et bien ça, c'est ce qui a conduit tout simplement au développement de la technologie lithium Mn2O4 carbone, technologie dont le projet Alliance entre Renault et Nissan repose, car c'est une technologie qui est basée sur l'utilisation du spinel lithium Mn2O4. Mais ça, si vous voulez, c'est tout simplement une recherche qui a conduit à une configuration d'accumulateur. Cependant, si on voulait tout simplement élargir le domaine d'application de cette technologie, eh bien dans ce cas, il fallait aussi faire évoluer la configuration. C'est-à-dire se dévier des configurations prismatiques ou des configurations cylindriques pour tenter d'obtenir des configurations plates et flexibles qui sont bien sûr très appropriées pour toutes les applications de la microélectronique. Alors bien sûr, l'enjeu économique est important. Les recherches dans ce secteur avaient déjà fructifié puisque de nombreux chercheurs avaient tenté de réaliser cela avec une approche polymérique comme indiqué ici. Dans ce cas, on utilisait un polymère qui est l'oxyde de polyéthylène en présence d'un plastifiant qui était le carbonate de propylène et d'un sel de lithium. On faisait, dans ce cas, un sirop à partir duquel on allait enduire un film pour obtenir un film électrolyte. Cependant, dans ce cas, on avait des films gluants et du fait que l'on mettait le lithium au départ du procédé, eh bien, on avait des procédés qui n'étaient pas du tout commerciables. D'où, dans ce cas, eh bien, il fallait tout simplement dessiner une membrane polymérique qui soit conductrice d'ions et finalement trouver un procédé qui nous permette d'évoluer en dehors, direct à l'air et non dans des atmosphères contrôlées. Eh bien, grâce à des recherches basées sur cette fois une chimie de polymère, nous avons trouvé une solution qui va consister, comme vous allez voir ici, à une certaine astuce, sur tout simplement le fait que toute matière plastique a une spécificité bien particulière qui est celle de pouvoir tout simplement absorber dans le réseau des plastifiants et de les relarguer par une simple extraction avec des solvants appropriés. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on a utilisé dans ce cas un polymère ou un copolymère de PVDF-HFP avec un plastifiant qui est un dibutylphtalate dont la formule est indiquée ici. Et lorsque l'on fait ça, on ajoute de la silice pour renforcer le tout et on peut obtenir dans ce cas un film plastique qui est mécaniquement robuste. Et ensuite, eh bien, ce film plastique, comme vous allez le voir ici, qui est transparent, on va tout simplement retirer le plastifiant en le plongeant tout simplement dans une solution d'éther pour obtenir une membrane poreuse. Vous retrouvez ici la couleur de la silice. Et cette membrane poreuse, tout ça se fait à l'air. Et la dernière étape, on va tout simplement réintroduire l'électrolyte comme plastifiant pour obtenir, dans ce cas, eh bien, notre film d'électrolyte. Donc voilà, si vous voulez, cette méthode de procédé relativement astucieux qui a permis de contourner les difficultés de la manipulation de ces matériaux. Mais l'élément magique en tout ça, eh bien, tout simplement, provient de la chimie et provient de l'élaboration de cette matrice copolymère PVDF-HFP qui contient des zones amorphes et des zones cristallites. Zones amorphes qui vont directement permettre d'absorber l'électrolyte et zones cristallines qui vont donner directement la stabilité mécanique à cette matrice. Et en jouant, bien sûr, sur le poids moléculaire, sur le degré de copolymérisation, on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, ajuster la quantité de solvant que cette matrice va pouvoir absorber et par conséquent, ajuster les propriétés électrochimiques de cette matrice. Là aussi, comme vous pouvez voir, c'est une chimie basée sur les polymères qui nous a permis de résoudre ce problème. Et ayant fait cela, eh bien, on va répéter la même chose sur les électrodes positives et sur les électrodes négatives. Et ainsi, on va tout simplement pouvoir assembler un accumulateur par laminage à température modérée pour obtenir une batterie plastique dans laquelle vous voyez qu'en ce cas, on n'a plus que d'interface macroscopique. Donc, les performances sont indiquées ici. Et cela a conduit à la technologie plastique lithium-ion qui est actuellement commercialisée par de nombreux fabricants de batteries. Donc voilà, si vous voulez, comment une chimie variée a permis de développer une technologie à l'état solide ou à l'état liquide et donner un autre essor à la technologie à ion lithium. Cela conclura mon premier exemple et je vais maintenant m'attacher au deuxième qui va tout simplement consister à l'apport des nanomatériaux. Et là aussi, j'ai choisi cet exemple pour vous montrer comment des fois, en chimie ou en recherche, eh bien, il faut savoir dévier des traditions pour aller de l'avant. En effet, si je reporte ici la problématique, eh bien, comme je vous l'ai montré, pendant 20 ans, la technologie à ions lithium a évolué et on a tout simplement établi un cahier de charge, si bien qu'on a défini finalement les figures de mérite pour un matériau idéal. Et ces figures de mérite étaient une conduction électronique élevée, une diffusion rapide de lithium, et ainsi de suite. Et comme chaque fois, si vous jouez à un jeu, et si vous mettez beaucoup de règles, eh bien à la fin, il y a très peu de gagnants. Et c'est la raison pour laquelle, après 20 ans de recherche, seuls 3 matériaux avaient été identifiés. Ils avaient été identifiés, et de plus, on savait qu'en ces matériaux, la capacité, c'est-à-dire le nombre d'électrons, ne pouvait pas excéder 1. D'où, on arrivait à une situation, comme souvent en recherche, lorsque finalement on tape dans un mur, eh bien, il faut essayer de voir, d'explorer, de dévier les sentiers battus et d'explorer de nouvelles voies. Et c'est dans ce cas que nous avons exploré la voie des nanomatériaux. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on a tout simplement ajouté à la composition, à la structure, à la pression et à la température, une autre dimension qui va être la taille de matériaux pour jouer tout simplement sur ses propriétés électrochimiques. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi il a fallu tant de temps dans le domaine de l'électrochimie pour introduire les nanomatériaux, alors que dans toutes les autres disciplines, de la microélectronique ainsi de suite, on a introduit le caractère nanométrique avec succès de plus de 10 ans. Eh bien, la seule raison provient tout simplement de réactions chimiques et, tout simplement, et du compromis entre réactions redox et réactions catalytiques. En effet, lorsqu'on voit un composé d'électrode, on a la réaction redox indiquée ici et on voit qu'on a un contact entre l'électrolyte et le matériau. Et ce contact va développer une interface, comme vous pouvez voir ici, une interface qui sera d'autant plus grande que ce matériau ou que cet électrolyte se trouvera en dehors de la fenêtre stabilité thermodynamique de l'électrolyte. Et voyez qu'en ce cas, bien, si on passe à des matériaux nanométriques, automatiquement on va augmenter ces réactions parasites et bien sûr l'électron ne va pas fonctionner. Alors pour tout simplement pallier à cela, la simple astuce consiste tout simplement à prendre des matériaux nanométriques et à les entourer d'une monocouche de carbone. Et ainsi, en jouant sur l'aspect nanométrique et enrobage, on va tout simplement pouvoir dessiner de nouveaux matériaux d'électrodes. Alors finalement, on peut voir pourquoi cet enrobage ou cette approche combinée enrobage nanomatériaux va fonctionner. Parce que pour qu'une électrode fonctionne correctement, il nous faut une percolation électronique et ionique. Et pour comprendre ce qui se passe ici, il suffit tout simplement d'assimiler ça au cerveau, dans lequel on a des neurones, et tous les neurones doivent être connectés et bien irrigués pour avoir un fonctionnement correct de notre cerveau. Et bien dans une électrode, c'est exactement la même chose. Dans le cas des ions, et bien on voit que si on va vers l'échelle nano, on va réduire tout simplement le temps de transfert d'un ion du centre à la surface par 100 si on divise directement le rayon par 10. Ça veut dire qu'en ce cas, on va tout simplement faciliter l'apport des ions. Maintenant, quant aux électrons, bien on s'aperçoit finalement que si maintenant on a mis du carbone à la surface du matériau, on a dans ce cas, comme l'a indiqué par ces lumières ici, une partie du matériau qui devient active. Mais si on veut que celui-ci soit encore plus actif, eh bien, il faut directement faire un dépôt uniforme. Et dans ce cas, on voit directement qu'on a accès à toute la matière active. Et pour ce faire, eh bien, dans ce cas, c'est ce tout simplement qui va conduire à l'utilisation d'une chimie que j'appellerais une chimie de greffage ou une chimie de pyrolyse qui va nous conduire à fabriquer des nanoparticules, comme indiqué ici, cœur-couronne. D'où, à partir de ça, eh bien, on peut tout simplement dessiner de nouveaux matériaux et l'apport a été considérable car ici, vous avez ce matériau, lithium FePO4, qui était un matériau qui, d'ici 10 ans, avait été totalement délaissé. Et aujourd'hui, grâce à cet aspect nanométrique, eh bien, il devient un des matériaux les plus prisés et qui sera certainement utilisé dans la prochaine génération de véhicules électriques. Et ça, grâce à cette approche nanométrique. De même, il en est pour tout simplement, ce que je vois ici, c'est directement le silicium, pour lequel on s'est battu pendant plus de 20 ans pour réaliser des électrodes, qui ne tenaient jamais en raison tout simplement de la broyage électrochimique. Et bien, grâce tout simplement à la réduction des contraintes apportées par l'aspect nanométrique, et bien, au jour d'aujourd'hui, on peut préparer des électrodes à base d'alliages de type lithium-X, SI ou lithium-X éteint. Et ça, c'est les travaux de la compagnie Sony qui a développé Nexelion. Et enfin, une autre activité, et notre développement, et notre apport de ces matériaux nanométriques a été la possibilité de, dans ce cas, de produire d'autres types de réactions en dehors ou d'autres mécanismes, comme indiqué ici, où on a des mécanismes de réaction de conversion, dans lequel, dans ce cas, on voit qu'une particule eh bien, va conduire à des nanoparticules, et cela de façon irréversible. Et on voit que, dans ce cas, eh bien, on peut insérer ou désinsérer plus d'un électron par métal 3D. Et cette réaction de conversion qu'on avait découvert en 2000, eh bien maintenant est devenue universelle. On peut l'appliquer à de nombreux composés, ce qui nous permet dans ce cas d'avoir une palette de potentiels, mais également de changer considérablement le nombre d'électrons. Et dans ce cas, eh bien on peut avoir des gains énormes au niveau capacité, et ces technologies sont en voie de développement à l'heure actuelle. D'où, si je résume, bien au jour d'aujourd'hui, voilà où nous en sommes de la technologie à ion lithium. En effet, celle-ci est vieille de 20 ans, et en 20 ans, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a doublé autant l'énergie gravimétrique de 210 Wh par kilo, ou alors l'énergie volumétrique de 625 Wh par litre. Et maintenant, la question est, comment, que faut-il faire de plus pour que cette technologie à ion lithium puisse être un succès pour le véhicule électrique? Et c'est maintenant ce que je vais aborder dans le reste de cet exposé. Alors pour ce faire, eh bien, il va falloir encore répondre à des questions qui reviennent sans cesse lorsqu'on travaille sur les accumulateurs. Ces questions sont de plusieurs niveaux, au niveau de la sécurité, dans lequel on veut toujours un risque zéro, également au niveau du coût de l'énergie, où dans ce cas on voudrait que le coût, bien sûr, diminue, il doit être diminué par un facteur 2, et que l'énergie soit multipliée par 2. Et dans ce cas, eh bien, il va falloir bien sûr travailler sur le matériel de l'électrode, puisque cette capacité est gouvernée par le matériel d'électrode, mais également sur ce matériel d'électrode en raison du coût, quand, comme vous pouvez voir ici, sur cette camembert, où je rapporte tout le coût des composants, eh bien, on voit aussi que la cathode est également l'élément le plus cher de ces accumulateurs. Mais, au contraire de cela il y a 10 ans, ces recherches devront se faire dans un contexte complètement différent, c'est-à-dire dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire qu'on va, dans ce cas, devoir travailler sur des matériaux, des procédés ayant une empreinte environnementale minimale. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. D'où, pourquoi cela? Eh bien, il faut considérer tout simplement l'assemblage en accumulateur. Ici, vous voyez que les accumulateurs vont pouvoir être assemblés, comme indiqué ici, en extrayant des minéraux, les purifiant, et en formant, dans ce cas, les matériaux d'électrode. Et tout ça, eh bien, ça va demander de l'énergie, ça sera une étape gourmande en énergie. Ensuite, ils devront être recyclés. Et là aussi, le recyclage sera une étape gourmande en énergie. D'où finalement, si on fait un bilan sur l'analyse de cycle de vie d'un accumulateur, eh bien, on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas si réconfortants que ça, puisque pour la fabrication d'une batterie de 1 kWh, il vous faut une énergie utilisée de 290 kWh et correspond à un CO2 émis de 110 kg. D'où, par conséquent, eh bien, il est important ou impératif de faire des batteries à ion lithium plus écologiques. Alors, quel est le rêve? Qu'est-ce qu'on cherche? Bien, ce qu'on cherche est indiqué ici. Voilà la situation idéale où l'on pourrait tout simplement utiliser des matériaux d'électrode qui proviendraient de la biomasse, qui seraient transformés par tous ceux qui sont la synthèse chimie verte pour former le matériau d'électrode. Ensuite, on pourrait assembler et le recyclage se ferait comme indiqué ici. Et bien sûr, pour faire cela, eh bien, il va falloir, dans ce cas, une fois de plus, poursuivre des recherches et différentes directions faisant appel à des chimies innovantes. C'est-à-dire, il va falloir élaborer des matériaux inorganiques via des procédés nouveaux et éco-efficaces. Il va falloir voir ce qu'on pourrait faire au niveau des matériaux organiques et finalement, voir si d'autres chimies pourraient répondre à cela. Alors, je vais considérer ces trois aspects en commençant par la synthèse de matériaux éco-efficaces. En effet, jusqu'à maintenant, les matériaux d'électrode que vous utilisez dans vos accumulateurs sont préparés par la méthode céramique, méthode qui est très énergivore. La raison pour laquelle on développe des méthodes basse température, méthodes de solution, des méthodes connues comme les méthodes hydrothermales ou solvothermales, voire qu'on développe de nouvelles méthodes comme les méthodes ionothermales et les méthodes minérales. Et je vais tout simplement vous montrer ce que l'on peut faire à partir du procédé ionothermal ou du procédé biominéral. En effet, la synthèse ionothermale, comme son nom l'indique, eh bien, elle se réalise dans des milieux liquides ioniques qui ne sont rien d'autre, tout simplement, que des associations de cations et d'anions organiques, comme indiqué ici. Avec l'avantage, c'est que dans ce cas, c'est composé non pas tout simplement de tension de vapeur, la stabilité thermique est relativement élevée, inflammable, et sont également de bons solvants pour les électrolytes. Eh bien, on va tout simplement tenter de réaliser des synthèses dans ces milieux liquides ioniques qui avaient jusque-là été totalement délaissés par les gens de la chimie inorganique. Et en faisant cela, eh bien, on s'est aperçu qu'on pouvait préparer de nombreux matériaux d'électrode à des températures nettement inférieures à ce qu'avait été jusqu'à maintenant, puisqu'on prépare ces matériaux à des températures de 200 degrés C. Également, on peut jouer sur la morphologie des matériaux d'électrode et avoir les formes que l'on souhaite en jouant sur les compositions chimiques des différents liquides ioniques que l'on utilise. Et en de plus de ça, eh bien, on peut également synthétiser de nouveaux matériaux. Ici, voilà toute une famille de matériaux qui, de cela, un an, n'existait pas. Les formules sont indiquées ici. Et parmi ces matériaux, un, qui est lithium faisceau 4F, se trouve être un matériau d'électrode très attractif, puisqu'il a une performance de 140 mAh par gramme et peut, dans ce cas, bien rentrer en forte compétition avec lithium FPO4, dont je vous ai déjà parlé, qui est un matériau d'électrode très important. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire par la chimie de synthèse. Alors maintenant, on peut argumenter en disant cette réaction se fond à 200 degrés. Comment ? Eh bien, pourrions-nous faire ces synthèses à température ambiante ? Et souvent, lorsque les chimistes ont tout simplement à travailler à température ambiante, eh bien, ils se retournent vers la chimie du vivant, qui est riche d'exemples, et pour cela, suit ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Et je citerai ici les travaux de Jean Lamarck, qui avait écrit que ce fut presque toujours de l'examen suivi des plus petits objets que nous présente la nature qu'on a obtenu la connaissance la plus importante. Et en effet, la nature est riche d'exemples illustrant sa capacité à former des particules nanométriques de silice ou de calcite. Par exemple, il est bien connu que l'on peut former la calcite à partir de la bactérie indiquée ici, en utilisant tout simplement l'uréase pour favoriser l'hydrolyse de l'urée. Eh bien, ce qu'on a fait là aussi, c'est qu'on a tenté tout simplement d'utiliser cela pour préparer des matériaux d'électrode, et notamment LiFePO4. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, en faisant une réaction relativement identique, on s'est aperçu que, là aussi, eh bien, la bactérie évoluait correctement, puisque dans ce cas, il y avait décomposition de l'urée pour créer un milieu basique qui était propice à la précipitation de notre phosphate de fer. Et cela a pu se voir par le changement de coloration de la solution. Et en effet, ça a été confirmé par des mesures de microscopie électronique. Vous voyez qu'en ce cas, la bactérie a produit un biofilm à l'intérieur desquels, eh bien, on trouve des nanofilaments de lithium FPO4, comme indiqué par tout simplement ce cliché de microscopie électronique. Et là aussi, c'est des recherches à l'heure actuelle qui s'élargissent à tous les domaines. Et je ne pourrais ici, sans citer les travaux qui ont eu lieu récemment au MIT, dans lequel, dans ce cas, des chercheurs ont réussi à faire des batteries à ion lithium à partir de virus. Dans ce cas, les virus sont utilisés comme moules pour faire des électrodes nanométriques. Mais plus spécifiquement, les chercheurs ont tout simplement pratiqué l'ingénierie virale et dopé un virus par des chaînes protéiniques capables de fixer un substrat métallique, comme l'or, ou alors de s'adapter au greffage de molécules organiques capable de promouvoir la nucléation de phosphate ou d'oxyde, comme dans ce cas FPO4 et CO3O4. D'où, définitivement, cette programmation génétique est une des directions qui se poursuit à l'heure actuelle pour exploiter des matériaux jamais utilisés, notamment des phosphates et des silicates. Alors, toujours pareil, s'inspirant de cette chimie du vivant, eh bien, on s'est demandé par la suite pourquoi finalement, où force est de constater que nos organismes reposent tous sur des mécanismes énergétiques qui mettent en valeur des réactions redox qui impliquent des molécules organiques. D'où la question était, est-ce qu'on pourrait utiliser des molécules organiques pour faire nos matériaux d'électrode ? Eh bien, c'est ce que je vous montrerai maintenant, où on va pouvoir utiliser ces matériaux pour développer des batteries écologiques. Alors pour ce faire, on a repris une vieille chimie des oxocarbones, famille qui consiste tout simplement de composés monocycliques conjugués dans lesquels chaque carbone est relié tout simplement à un oxygène par une fonction cétone ou à directement un oxygène lithium par une fonction, dans ce cas, énol. Et parmi ces matériaux, l'un d'entre eux, qui est le lithium diroxénate, se trouve être actif électrochimiquement. Comme vous pouvez le voir ici, on peut dans ce matériau insérer de façon réversible 4 électrons correspondant tout simplement à ces 4 liaison cétone. Ce qui donne à ce composé une énergie massique qui est deux fois supérieure à celle de lithium FPO4. Mais, en dehors de ses performances attrayantes, ce qui est le plus important sur ce matériau, c'est la façon dont on peut l'obtenir de façon chimique. En effet, ce matériau, qui est le rhodisonate lithium, peut s'obtenir à partir du myo-inositol, qui est un produit naturel qui se trouve directement dans les plantes sous la forme dérivée d'acide phytique qui est tout simplement facilement extractable. Et par exemple, et l'acide phytique constitue 8% en masse du jus de macération du maïs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est capable tout simplement de préparer des matériaux d'électrode à partir de la biomasse. Et poursuivant la richesse de la chimie organique, eh bien on peut, dans ce cas, synthétiser de nombreuses molécules organiques avec des fonctions esters, des fonctions carbonyles, des fonctions carboxyles, et avoir des potentiels relativement variés. Et, comme l'on a fait dans le cas des composés inorganiques, maintenant, pour construire un accumulateur à ion lithium, il suffit de prendre un composé des plus réducteurs avec un composé des plus oxydants. Et on peut faire un accumulateur à ion lithium. C'est ce qu'on a fait, et ce que je rapporte ici, qui est le premier accumulateur à ion lithium éco-compatible, dont les performances sont indiquées ici. Vous avez une bonne stabilité, une bonne tenue en cyclage, mais bien sûr, les performances sont relativement modestes, dû au fait qu'on n'a pas encore les matériaux adéquats. Mais ce que je vous montrais ici, c'est qu'on a directement ouvert une autre direction, un nouveau concept qui, certainement, sera le concept de la fabrication d'accumulateurs dans le futur. En effet, dans ce cas, on a un cycle de vie totalement idéal, puisqu'on n'a aucune empreinte CO2, car dans ce cas, les matériaux sont élaborés via des concepts de chimie verte, et le recyclage va libérer du CO2, et dans ce cas, les électrodes sont renouvelables, car elles vont utiliser le soleil comme source abondante et inépuisable d'énergie. Voilà, si vous voulez, un concept sur lequel on travaille. Alors, bien sûr, maintenant, la question qu'on peut se poser, et pour terminer cela, c'est qu'en est-il au niveau énergétique? En effet, je vous ai montré pas mal d'accumulateurs, je vous ai montré l'aspect éco-compatible des approches basées sur des électrodes organiques, mais si on regarde finalement, bien, au jour d'aujourd'hui, un litre d'essence est équivalent à 2500 Wh par kilo et une batterie à 150 Wh par kilo. Vous voyez qu'on a encore un gap de 15 à fermer pour pouvoir directement être là où on souhaite. Alors bien sûr, quels sont les systèmes? Mais certains systèmes présentent un certain espoir. Ce sont tout simplement des systèmes qui ont déjà été utilisés dans le passé. Et vous allez voir comment la chimie a pu revigorer ces systèmes. Ce sont ce qu'on appellerait les systèmes lithium-oxygène ou lithium-mer. Dans ce cas, ces systèmes, tout simplement, présentent des densités d'énergie théorique relativement importantes, puisque les électrodes sont relativement légères. Ces systèmes fonctionnent comme indiqué ici. Vous avez dans ce cas une électrode de lithium. Vous avez ici une électrode positive qui est constituée tout simplement d'un catalyseur qui est imprégné dans un matériau poreux. Et lorsque vous allez décharger l'accumulateur, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, regardez, il va y avoir formation de lithium DO2 solide à l'intérieur. Et si vous regardez ici le contraste, on apparaît directement les pores qui se remplissent. Et cela va se produire sur une réaction dont je ne vais pas rentrer en détail, mais je veux tout simplement souligner ici que lors de cette réduction, il y a formation d'un radical qui est l'ion superoxyde. Et je reviendrai dessus. Maintenant, si on regarde en charge, le phénomène inverse se produit. Vous voyez, l'électrode maintenant redevient contrastée. Ça veut dire qu'en ce cas, le lithium DO2 va sortir. Eh bien, là aussi, c'est des systèmes qui, de cela 15 ans, on n'arrivait pas à les faire marcher. Mais grâce à tout ce qu'on a appris au niveau des matériaux nanométriques, grâce à tout ce qu'on a appris au niveau de la chimie, qui nous permet de déposer des électrodes nanostructurées, ainsi de suite, eh bien, au jour d'aujourd'hui, on peut maintenant rendre ces systèmes réversibles, comme vous pouvez le voir ici, avec des polarisations importantes. Cependant, on peut avoir des densités d'énergie qui sont à 5 à 6 fois ce qu'on avait réalisé dans le cas du lithium-ion. Alors bien sûr, on a fait un très grand pas en avant, ce sont les bonnes nouvelles, mais il reste encore de très grands verrous technologiques à lever, notamment au niveau de cet ion superoxyde, qui, comme je vous l'ai indiqué, est un nucléophile très important qui détruit nos électrolytes et qui va tout simplement empêcher le cyclage de nos accumulateurs. Et là aussi, une fois de plus, on a recours à la chimie du vivant, car finalement, cet ion superoxyde est un des constituants les plus connus de notre corps humain et on sait le contrôler en utilisant, par exemple, du superoxyde dismutase et ainsi de suite. D'où, on revient encore à la chimie du vivant pour essayer de résoudre nos problèmes concernant cette question. D'où, je vais conclure maintenant cette présentation en vous montrant certaines perspectives au niveau des batteries. Et j'espère vous avoir convaincu que grâce à la chimie, à une chimie variée, à une chimie diversifiée, eh bien on a pu tout simplement améliorer fortement les accumulateurs à ion lithium au point qu'aujourd'hui, ils peuvent satisfaire aux demandes provenant du véhicule électrique et également provenant du stationnaire. Je vous ai également montré que notre chimie arrive à l'horizon et qui se situait tout dans le contexte du développement durable, avec notamment une chimie attractive, qui est la chimie basée sur l'utilisation d'électrodes organiques renouvelables, et également sur des systèmes pouvant donner des améliorations de densité d'énergie importantes par un facteur 2 ou 3. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on a réalisé au niveau des accumulateurs à lithium. Alors maintenant, pour juste terminer, je vais me permettre de rêver pendant un transparent et de vous montrer peut-être quel serait le scénario gagnant pour le futur du véhicule électrique. En effet, dans ce cas, on utiliserait tout simplement l'énergie photovoltaïque en supposant que nos prédictions au niveau de recherche sont justes et que celle-ci est un prix comparable à celle du nucléaire dans 20 ou 30 ans. Ensuite, on pourrait tout simplement utiliser cet accumulateur si là aussi on réussit dans l'augmentation de densité d'énergie et ainsi de suite. D'où par conséquent, la question est, c'est, pourra-t-on atteindre nos objectifs et nos prédictions? Eh bien, la réponse, je dirais, optimiste doit régner, puisque finalement, dans tout ce que je vous ai montré, eh bien, les principes de conversion des photovoltaïques sont connus, on n'a rien démontré. Les principes du stockage électrochimique, c'est bien connu. Le seul problème, c'est d'avoir des matériaux encore plus performants. Et je crois que dans ce cas, en étant chimiste, je ne peux faire que confiance à la chimie, et je peux tout simplement terminer sur une citation de Marcelin Berthelot qui résume finalement que la chimie nous apportera certainement des solutions. En effet, il écrit « La synthèse chimique reproduit les corps naturels et tire chaque jour du néant des milliers de composés que la nature n'avait jamais connus, qui font la richesse et la prospérité des nations et qui accroissent sans cesse le bien-être de l'espèce humaine. » Et je terminerai là-dessus en espérant d'avoir convaincu que la chimie apporte grandement au domaine du stockage d'énergie. Et merci pour votre attention.
Merci Jean-Marie Tarascon pour ce magnifique exposé, à la fois sur le passé, les choses réalisées et les perspectives offertes. Oui, alors nous avons une question ici, à droite.
Bonjour, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut emmagasiner la foudre? Parce que la foudre, à mon avis, doit dégager et plusieurs gigawatts d'électricité. Merci.
La foudre.
Oui.
Oh.
La foudre, oui, doit dégager plusieurs watts, je vais même dire gigawatts ou terawatts d'électricité. Est-ce qu'on peut emmagasiner la foudre d'énergie dégagée par la foudre? Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
Merci, oui, bon. Bon, je pense que...
Bonjour. J'ai lu tout récemment, dans un article publié par l'Économiste, anglais, le 26 mars dernier, que à titre expérimental, on a réussi à créer des batteries qui se chargent 100 fois plus vite que les batteries précédentes. Et ces batteries auraient été, ces études auraient été faites par un dénommé Paul Brown à l'université de l'Illinois. Et le mécanisme serait le suivant, d'ailleurs très proche de choses que vous avez esquissées. Pour la cathode serait composée de nanosphères de polystyrène qui sont soit nickelées, dont la surface est nickelée, ou bien lithiumée, si j'ose dire, ce qui permet d'avoir un contact bien plus important avec l'électrolyte, et paraît-il, ils auraient donc réussi à ce résultat extraordinaire, mais expérimental, de multiplier par 100 la vitesse de charge de ces batteries, ce qui, si on arrivait à étendre ça de manière industrielle, résoudrait évidemment le problème des véhicules électriques. Voilà quelle est ma question.
Bon, effectivement, ce que vous mentionnez sont des recherches qui ont profité énormément de l'aspect nanomatériaux dont j'ai mentionné, où dans ce cas, les personnes utilisent des nanomatériaux, mais ce qu'il faut bien être conscient, c'est que si on passe à l'échelle nanométrique, on va avoir dans ce cas des systèmes qui seront des systèmes de puissance, mais pas des systèmes d'autonomie. Et par exemple, si je prends l'exemple que je vous ai mentionné ici, qui est l'exemple lithium FPO4, ce matériau lithium FPO4 est un matériau qui peut avoir une certaine autonomie, mais on peut, dans le cas des ingénieurs lithium, en réduisant la, taille, la grosseur des électrons et la taille des particules, obtenir des régimes de 50C, voire 60C. Par exemple, un papier du MIT, dans ce domaine, a été publié dans Nature Materials, qui prétendent arriver à avoir des régimes de 100C ou 50C sur des électrodes. D'où c'est fort possible en passant à l'échelle nanométrique. Mais j'appellerai pas ça une révolution. Parce qu'il faut faire attention qu'on a les accumulateurs et ensuite on a les supercondensateurs. Et la frontière est, je dirais, très floue.
Une question ici.
S'il vous plaît, monsieur. Oui. Le lithium est-il un élément rare ou répandu? Et d'autre part, dans quelle roche trouve-t-on cet élément? Est-il difficile à extraire?
Alors, oui. Alors ça, c'était une très bonne question, parce que ça a été, le lithium a été la source d'études fréquentes récemment, avec, je dirais, des résultats assez alarmistes, disant qu'il n'y a plus à avoir de lithium, et ainsi de suite. Bon, du lithium, il y en a encore. Bon, les sources du lithium et le minéral, c'est le spodumen. On trouve dans le minéral spodumen, où on peut extraire, mais c'est surtout dans les salars ou les brimes de lithium. En Bolivie, et ainsi de suite. Alors, le lithium, effectivement, on risque à être limité, mais il faut voir que, associé à tous ces aspects de batterie, il y a tout un effort énorme aujourd'hui qui se met sur le recyclage. C'est-à-dire qu'on va être obligé de recycler, et au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des compagnies, dont Récupil, Agronoble, et ainsi de suite, qui sont spécialisées dans le recyclage et la récupération du lithium, et également la récupération du cobalt. D'où, je dirais, je serais nettement moins alarmiste concernant, finalement, les ressources en lithium, et ainsi de suite.
Voilà. Ici, au centre, madame.
Merci. Deux personnes ici.
Pour continuer sur, justement, les problèmes de recyclage, si vous voulez. En fait, quand vous étudiez de nouvelles batteries, enfin de nouveaux systèmes, est-ce que vous faites intervenir la facilité et le moindre coût du recyclage, coût financier, mais aussi coût pour l'environnement, si vous voulez, des éléments que vous avez incorporés?
Alors, okay. Alors là aussi, je dirais, c'est une évolution drastique dans la recherche dans notre domaine. Je vous dirais, de deux ans, je vous dirais, non, on n'y fait même pas attention. Au jour d'aujourd'hui, dans le contexte du développement durable, eh bien, on fait, dès la conception des matériaux, on commence à réfléchir sur ces problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, bon, dans le réseau français qu'on va constituer sur le stockage électrochimique de l'énergie, eh bien, il y a des laboratoires, voire même des PME, qui sont spécialistes dans ces problèmes et qui veulent participer à ces recherches pour arriver à faire dès l'amont l'étude du recyclage et des coûts. D'où ça rentre parfaitement aujourd'hui, si je peux dire, dans le cahier des charges, dans l'élaboration de nouveaux matériaux. Okay. Mais c'est un changement complet
de perspective. Merci.
Oui, ici, okay. À droite.
Ok. Bonsoir. Donc, deux questions sur l'hydrogène que vous citez. La première, c'est, bon, vous avez mentionné la photoélectrolyse de l'eau. Hein, si vous pouvez préciser un peu de quoi il s'agit, ça m'intéresserait. Puis l'autre, c'est il y a quelques décennies des adaptations, des recherches pour faire des adaptations technico-économiques de l'électrolyse de l'eau à la production d'hydrogène pour stocker l'énergie électronucléaire d'heure creuse ont été faites. Et que sont-elles devenues et que pouvez-vous dire sur cette filière? Est-elle tout à fait abandonnée ou non? Et puis, enfin, vous voyez, l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau, et puis avoir un petit mot sur la photoélectrolyse, s'il vous plaît.
Alors, peut-être sur la photoélectrolyse, bon, comme je l'ai indiqué ici, c'est la propriété tout simplement de pouvoir faire la dissociation de l'eau à partir de jonctions semi-conducteurs liquides. D'où, dans ce cas, la difficulté réside bon, dans les rendements, mais également dans le fait de trouver les oxydes qui soient stables, si possible, en milieu aqueux et qu'il n'y ait pas de corrosion. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui très peu de candidats, dont il y a l'oxyde de fer, toujours le même, et qui, dopé avec de l'iridium, peut donner des rendements de 6 à 7%. Ensuite, il y a des travaux récents et très importants qui ont fait beaucoup de bruit. C'est des travaux d'une personne de MIT, par le nom de Nocera, qui a directement développé une photocatalyse avec un catalyseur, de nouveau un oxyde, qui permet également d'obtenir des rendements de 6 à 7%. D'où, je dirais, dans cet aspect, il y a encore des recherches importantes pour cette génération d'hydrogène. Et demain, je crois que c'est demain, vous allez écouter, je crois que c'est Marc Pontecave, qui va vous donner un autre aperçu, finalement, de la génération d'hydrogène par tous ces aspects directement de photosynthèse, et ainsi de suite. Okay. Par contre, tout ce qui est l'aspect hydrogène à partir directement des syngas et tout ça, je dirais que c'est des procédés qui sont relativement coûteux et dont les rendements sont relativement faibles. C'est pour ça que le vecteur hydrogène n'a de sens, mon point personnel, que si effectivement on peut faire cette photosynthèse ou photocatalyse ou photoélectrolyse.
Oui, c'est ça. Je rejoins le conférencier en vous invitant à revenir demain pour l'exposé de M. Marc Fontecave, précisément sur ces problèmes-là. Et les travaux de son équipe à Grenoble et au Collège de France.
Pardon, oui, puis-je poser un problème typiquement de construction automobile à l'heure actuelle pour des voitures économes, genre Clio 205 par exemple. Il suffit d'avoir un moteur de 100 chevaux et vous avez une réserve énergétique de 50 litres qui représente 40 kilos en gros. Si vous passez dans l'électricité, vous avez donc en gros 75 kilowatts. Quelle est la masse de batterie que vous êtes obligé de mettre dans la voiture ?
Pour 75 kilowatts ?
Oui, pour 75 kilowatts. C'est l'équivalent des 100 chevaux
des voitures. 500 kilos.
Combien ?
500 kilos.
Oui, autrement dit, 10 fois plus que le poids des 500. Ce qui se traduira par une augmentation de résistance au roulement beaucoup plus grande. Dans les accélérations en ville, une énergie beaucoup consommée, c'est de la faute à Newton, il y avait bien de mal. Et puis dans les pentes, vous aurez beaucoup plus. Alors suivant que vous auriez des voitures qui sont dans un pays plat, ou la Belgique, et un pays accidenté, la Savoie ou autre chose, l'usage de la voiture électrique peut s'avérer excellent ou peut-être catastrophique s'il y a trop de pentes.
D'accord, mais là vous partez sur l'hypothèse que si vous avez 75 kW,
oui,
vous avez une autonomie de 500 km. Et au jour d'aujourd'hui, la voiture électrique, on la conçoit pas pour des distances si longues, oui, on la conçoit pour 160 à 200 km. Ce qui fait qu'on est en train de regarder autour de 25 à 30 kW. Parce que la voiture électrique, votre voiture, je dirais, de tous les jours, c'est plutôt une voiture de tous les jours, et on s'aperçoit que la voiture de tous les jours dépasse rarement plus de 150 à 160 km.
D'accord.
Mais bon, c'est la raison pour laquelle, vous savez, j'ai mentionné le chiffre 15, où on arrive à un chiffre 10. Comme ça, il y a encore des progrès à faire et d'améliorer ces technologies.
Donc une question ici au centre.
Pourriez-vous développer un petit peu le cadre, financier ou juridique ou étatique dans lequel sont conduites toutes les recherches intéressantes dont vous nous avez parlé ? Est-ce que ce sont uniquement des recherches à l'université ? Est-ce qu'il y a des boîtes privées qui en conduisent ? Et comment la France se place-t-elle par rapport aux autres pays développés dans ces recherches ?
Ok. Alors là, c'est une très bonne question d'actualité encore.
Vaste question.
C'est-à-dire, effectivement, si on regarde le passé, j'aurais presque pu faire une heure sur finalement tout ce qu'est la pays des batteries. Dans le passé, effectivement, on a eu une recherche très performante et, comme vous le savez tous, la production des accumulateurs à ion lithium est partie en Asie. Et les recherches fondamentales avaient été faites dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, je dirais, le gouvernement français a pris une décision il y a de ça un an pour créer un réseau technologique de stockage électrochimique en France. Et ce réseau, dont je m'occupe d'une aile de celui-ci, a pour but de fédérer les chercheurs universitaires, les EPIC et les industriels. Et au jour d'aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour définir un cahier de charge et on a développé une politique de brevets de faire en sorte finalement que si on développe quelque chose, nos industriels français auront les premiers accès à nos recherches. D'où ça se monte. Je crois qu'on a une réunion vendredi prochain au ministère pour solidifier tout ça. On évolue et on va dans ce sens. Société introduite à bourse, dans ce cas, c'est qu'il faut des PME. Alors, si je peux aller dans les détails, les industriels peuvent participer avec une cotisation et là aussi, les PME, comme elles sont des marques, ce sera gratuit pour eux, ils pourront avoir accès à nos brevets.
Comment la France, est-ce qu'il y a des recherches analogues conduites dans les autres pays développés ? Comment la France se place-t-elle par rapport à ses concurrents ?
Je pense qu'au niveau recherche fondamentale, la France est dans tous les premiers. Mais on a loupé, si vous voulez, la guerre du lithium-ion, malgré que les concepts ont été développés en France et même en Europe. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on essaie de faire des recherches beaucoup futuristes, je peux dire, pour essayer de se positionner et de protéger une propriété intellectuelle sur d'autres directement systèmes. Mais au niveau international, je pense qu'on est très bien positionné.
Voilà, je pense qu'il n'y a plus de... Ah si, une question ici, monsieur... Un instant, attendez le micro, monsieur.
Allô ? Il faut changer les piles au bout de combien de cycles ?
Écoutez, alors là, de nouveau, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Bon, de nouveau, les piles sont finalement... L'avantage, si je peux dire, de cette technologie à ion lithium, c'est qu'on peut finalement la dessiner pour des applications qu'on envisage. C'est-à-dire qu'on peut faire des applications, comme vous disiez, pour la puissance, pour l'autonomie, et pour, finalement, longue durée de vie. Bon, aujourd'hui, je dirais, 1000 cycles, c'est relativement classique pour une énergie à ion lithium. Mais ça ne veut pas dire que tous les accumulateurs à ion lithium que vous allez acheter vont tenir 1000 cycles. Okay. Mais la technologie par elle-même est capable d'avoir une très bonne durée de vie. Ce qui se passe, c'est de nouveau, c'est un domaine qui est très concurrentiel, le business est très important, et dans ce cas, il y a beaucoup de fabricants qui essaie tout simplement de fabriquer des produits en abaissant le coût, mais en sacrifiant un peu sur la qualité, et ce qui est le plus important, en sacrifiant sur le risque. De tout ça, si vous voulez, je ne peux pas répondre en disant c'était les chiffres.
Mais ça dépend bien d'autres facteurs, là encore, mmh, hein, ouais, qui dépendent de la société ici. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une question ici, à l'extrême gauche.
Ma femme est allée chercher un nouvel aspirateur sans fil et elle est revenue avec plein de questions pour moi. La première, le vendeur lui a dit, mais il y a les batteries 18 volts, il y a les batteries 24 volts, qu'est-ce que vous allez faire de votre aspirateur, etc. Alors d'où ma question, supposons que la voiture avec les batteries existe, est-ce qu'on va avoir ce genre de casse-tête supplémentaire posé par le vendeur ou le loueur? Qu'est-ce que vous allez faire de vos voitures? Est-ce que vous, comme disait la personne tout à l'heure, vous allez monter une pente, vous allez rouler sur du plat, vous roulez à combien dans la voiture? Alors je vous propose la batterie à 250 volts, machin truc, ou la batterie à 12 volts. Est-ce qu'on s'achemine vers une complication qu'on a vu apparaître avec les téléphones par rapport au bon téléphone d'il y a 50 ans où il y avait un seul abonnement et un seul poste à roulette?
De nouveau, c'est une question sur laquelle, bon... Je peux répondre par expérience. Vous avez mentionné le cas des portables, téléphones portables, des ordinateurs, ainsi de suite. Effectivement, si on prend un ordinateur portable, bon, par exemple, j'ai un Dell, si j'en change tous les 2 ou 3 ans, bien, il faut que je change tout simplement le chargeur puisque la batterie a changé. Et je vais tout simplement prendre l'exemple, il y a de cela 15 ans, c'est la compagnie Duracell aux États-Unis a essayé un projet d'uniformiser toutes les batteries, de façon que finalement, quel que soit votre ordinateur, vous puissiez directement avoir le même chargeur et tout ça. Eh bien, ça a été un échec. Vous avez parfaitement raison, et c'est aujourd'hui, ce n'est pas encore résolu, comment va-t-on faire au niveau du véhicule électrique? C'est-à-dire, bon, les différentes marques ne vont pas utiliser les mêmes batteries, et la batterie, finalement, sera une valeur ajoutée pour la vente du véhicule électrique. D'où tous les systèmes d'uniformité au niveau de recharge, des infrastructures, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des études qui sont en cours, et je crois, bon, et ça me passe totalement même au-dessus de la tête. Mais, de nouveau, c'est une question que je pense que des gens de renom, ainsi de suite, pourraient répondre bien mieux que moi, je pense. Et j'espère qu'ils l'ont adressé.
Bien. Encore une question. Oui, en haut. Oui, on vous écoute, monsieur.
Oui, vous voyez l'arrivée du véhicule électrique d'une façon, disons, un peu sérieuse. À quel objectif de temps, de délai?
Non, bon, je crois que l'arlésienne du véhicule électrique, ça ne va pas se reproduire. Je pense que le véhicule électrique, maintenant, va arriver, il est là, c'est-à-dire il y a beaucoup de fabricants dans le monde qui sont sur les starting blocks pour lancer la commercialisation. Il y a Renault, il y a déjà des véhicules électriques en route. Et là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que le véhicule électrique va arriver, la question est quelle va être la pénétration du véhicule électrique dans les 10 ans, 15 ans ou 20 ans dans différents pays. Mais le véhicule électrique, je pense, au jour d'aujourd'hui, il est là. Ce n'est plus une question de... Ça, c'est clair.
Bien. Une dernière question, peut-être ici, au premier rang. Le micro arrive, monsieur.
Pour une raison financière, la petite voiture à 75 kW pesait une tonne, ce qui fait, et coûtait 10 000 euros, ce qui fait du 10 euros à la tonne, au kilo. C'est pas beaucoup, le jambon est à 18. Mais votre voiture à 35 000 euros, a-t-on dit, électrique, ramené à 1500 kilos, ça diminue le prix au kilo, mais ça fait quand même 22 euros le kilo.
Ouais. Mais bon, je vois.
Mais oui, mais on va prendre la voiture au kilo, mais le constructeur est obligé maintenant de se faire banquier et de dire, vous ne pouvez pas sortir 35 000 euros, je vais vous faire payer à tempérament 200 euros tous les mois. Voilà.
Oui, mais bon, là, il faut faire quand même un calcul cumulé. Parce qu'il se peut que finalement, bon, les voitures électriques vont sortir, ainsi de suite. Bon, il y aura directement le service. Et peut-être la batterie sera même louée. Voilà. D'où, si vous voyez, il y a tous ces systèmes qui se mettent en route. Mais grosso modo, au jour d'aujourd'hui, le prix du kilowattheure est aux alentours de 500 euros ou 500 dollars. Et là, il baisse, et on estime qu'il descendra jusqu'aux alentours de 200. Lorsqu'il y aura le grand volume, ainsi de suite. Mais bon, tout ça, les technologies vont évoluer. Je pense qu'au départ, c'est sûr, si on fait l'aspect économique, bon, ce n'est quand même pas bon, évident.
Voilà. Je pense que nous pouvons remercier encore M. Tarascon de sa conférence.